Chapitre 104. Quatre gardes de sécurité du Timberline Knolls Residential Treatment Center conduisent Saga Bauer aux grilles pour attendre l'arrivée de la voiture de police. Ils font leur rapport concernant l'intrusion et la laissent avec les deux officiers de police qui l'amènent au commissariat défraîchi de Lemont. Saga somnole ensuite sur le banc d'une cellule, sans avoir pu parler avec qui que ce soit. Dans l'après-midi, on la transfère dans une salle d'interrogatoire dépourvue de fenêtres. Elle n'a toujours pas le droit de passer de coup de téléphone, mais une policière note avec une patience sarcastique tous les noms et contacts que Saga mentionne. Lorsque vers le soir on commence à se rendre compte qu'il n'est pas impossible qu'elle dise la vérité, on met le FBI sur l'affaire. Mais comme leurs bureaux dans Roosevelt Road sont fermés pour la journée, on la ramène dans la cellule où elle peut dormir sur un matelas plastifié. Il est 9 heures du matin lorsque la Supervisory Special Agent Jocelyn Lopez arrive au commissariat. Elle sent déjà la surdose de café et, à l'évidence, elle est capable de se montrer encore plus maussade que la dernière fois. « L'hôtel vous a plu ?» demande-t-elle après avoir signé les papiers de libération de Saga. « Sans plus. » Elle quitte le commissariat en silence et monte dans la Pontiac gris argentée de Lopez. « J'ai besoin d'emprunter un téléphone, » dit Saga. « Pour appeler votre chef ?» demande Lopez en démarrant la voiture. « Oui. Je lui ai parlé plusieurs fois. « Alors vous savez déjà que j'ai besoin de passer un coup de fil, » dit Saga. « Vous pouvez faire une croix dessus. « C'est important. « Ok, Bauer, vous êtes mignon en Suède, mais pas spécialement futé, pas vrai ?» Saga ignore comment a été réglé l'incident entre les différentes autorités policières, mais il semble clair que les Suédois ont promis qu'elle rentrerait gentiment chez elle sans causer d'autres problèmes. Lopez accompagne Saga au terminal 1 de l'aéroport international O'Hare, la remercie pour leur collaboration et épingle un gros badge sur sa veste représentant un oignon joyeux avec le texte « My kind of town ». Un policier en uniforme est chargé de l'escorter jusqu'à son avion de retour. Il est de bonne humeur quand il l'accompagne à l'enregistrement et lui confie qu'il regarde une série télévisée sur les Vikings. Les files d'attente au contrôle de sécurité sont interminables. Au bout de 45 minutes, seule la moitié des gens sont passés. Le policier reçoit un appel sur son talkie-walkie, il répond et jette un regard vers les escalators avant de se tourner vers Saga. « Il faut que j'y aille, mais vous pouvez vous débrouiller seul. Votre avion ne part que dans 4 heures. Prenez un hamburger et gardez un œil sur les tableaux d'affichage pour repérer votre porte d'embarquement. » Il rebrousse chemin et se fraye un passage parmi les voyageurs tout en parlant dans sa radio. Saga suit la lente avancée de la queue. Son téléphone est détruit et elle ne sait pas ce que Juna a appris sur Rex et Oscar. D'autres personnes sont peut-être mortes parce qu'elle a été arrêtée avant d'avoir eu le temps de poser les questions les plus importantes à Grace. Elle va bientôt rentrer chez elle, elle ne va pas causer d'autres ennuis, mais d'abord il faut qu'elle retourne au centre de soins. Et elle doit absolument trouver un téléphone pour appeler Juna. Il s'est passé quelque chose lors du viol que Grace n'a pas raconté. Un inconnu était présent au terrier de lapin. Peut-être s'agit-il du tueur. Saga fait demi-tour dans la file d'attente en s'excusant, hisse son sac sur son épaule et traverse le hall des départs en direction des portes les plus éloignées des escalators, puis descend dans le hall des arrivées. En la voyant revenir, l'homme de l'agence de location lui lance un regard plein d'espoir, comme si ses rêves les plus fous se réalisaient. « N'y pensez même pas, » dit-elle avant qu'il ait ouvert la bouche. De nouveau, elle loue une Ford Mustang, lance son sac sur la banquette arrière, s'installe au volant et démarre en direction de la luxueuse maison de santé. Les banlieues de Chicago semblent vulnérables dans la lumière grise. Leur terrible dépendance à l'industrie se révèle dans toute sa nudité. Les grilles de Timberline Knolls sont ouvertes. Saga passe devant la guérite du gardien et se gare sur le parking des visiteurs. Sans passer par la réception, elle se précipite entre les bâtiments principaux et coupe par la pelouse où il n'y a pas si longtemps elle se faufilait dans le noir, puis elle continue devant les ateliers en direction de la résidence de Grace. Elle ouvre les portes, traverse la salle de séjour où quelques patientes sont en train de déjeuner, s'engage dans le couloir, frappe à la porte et entre sans attendre de réponse. Grace se tient le dos tourné à la porte, comme l'autre fois, et contemple le magnifique rhododendron dans le jardin. Du terreau et des éclats de porcelaine craquent sous les chaussures de Saga quand elle avance dans la pièce. Le flacon de médicaments blancs se trouve par terre au pied de la femme.
« Grace, » dit Saga doucement.
La femme souffle sur la vitre, formant un rond de buée qu'elle efface avec le doigt avant de recommencer.
« Est-ce qu'on peut parler ?» demande Saga en s'approchant d'elle. « Je ne suis pas très en forme aujourd'hui, »
réplique Grace en se retournant lentement.
« Je crois que j'en ai pris trois. Il faut que je dorme. »
« Trois comprimés, c'est trop ?»«
Oui, »
dit la femme frêle avec un sourire.
« Alors je vais appeler un médecin. »« Non, je me sens juste un peu fatiguée, »
murmure-t-elle. Elle ouvre sa main fine et regarde les gélules roses. Elle en prend une qu'elle porte à sa bouche lorsque Saga l'arrête avec douceur.
« Vous en avez assez pris comme ça ?»«
Oui. »«
Je ne veux surtout pas vous chambouler, » commence Saga. « Mais quand je suis venu vous voir la dernière fois, vous m'avez parlé du terrier de lapin, de ce que les garçons vous avaient fait. »«
Oui, »
dit Grace encore une fois à voix basse.
« Est-ce qu'il s'est passé autre chose à ce moment-là ?»« Ils m'ont frappé. Je me suis évanouie plusieurs fois. »
Elle se tait et se met à tripoter les boutons de son gilet avec ses doigts tremblants.
« Vous vous êtes évanouie, mais vous êtes quand même sûre que tous les garçons ont participé au viol ?»
Elle hoche la tête, puis met la main devant sa bouche comme si elle allait vomir.
« Vous voulez que j'appelle de l'aide ?» demande Saga. « Non, des fois j'en prends cinq. »
Grace regarde par la fenêtre et passe son doigt sur la buée, produisant un faible grincement. Saga voit deux femmes du personnel vêtues de blouses blanches s'approcher sur l'allée piétonne à droite.
« Écoutez-moi, vous dites que vous êtes sûr que tout le monde participait, mais... »
Grace l'interrompt avec un sourire.
Je me souviens de tout, de chaque grain de poussière dans l'air. Vous vous souvenez de Rex?
C'était lui le pire,
répond Grace en la regardant avec les yeux mi-clos.
Vous êtes certaine? Vous l'avez vu? C'est lui qui m'y a emmené. J'avais confiance en lui, mais...
Elle repose sa joue contre le mur, ferme les yeux et laisse échapper un rot discret.
Il vous a accompagné jusqu'au terrier de lapin? Non, ils m'ont dit qu'il viendrait plus tard.
Et il est venu?
Vous avez déjà senti la puanteur d'un terrier de lapin?
Demande Grace en se dirigeant vers le fauteuil.
Ce n'est qu'une petite ouverture dans le sol, mais en dessous il y a tout un labyrinthe de galeries obscures.
Mais vous n'avez pas vu Rex, n'est-ce pas? Demande Saga patiemment.
Ils m'ont tiré par les bras, par les jambes. Personne n'avait envie d'attendre. Ils poussaient des grognements, ils se bousculaient. Ils s'étaient déguisés avec de grosses oreilles blanches.
Elle pose ses mains sur le dossier du fauteuil, oscille vers l'avant comme si elle s'était endormie au beau milieu d'une pensée.
« Vous ne voulez pas vous allonger ?»« Non, ça va, c'est juste l'effet des cachets. »
Elle essaie de se coucher dans le fauteuil, mais elle n'arrive pas à s'y blottir et se remet debout. Saga entend des voix joyeuses dans le couloir, des coups frappés aux portes, et comprend que les médecins ont commencé les visites.
« Ce que j'essaie de dire, c'est que les souvenirs, c'est compliqué. » On peut croire qu'on se souvient de certaines choses, puisqu'on en a beaucoup parlé, mais... Et si je vous disais que Rex n'était pas là, il était là.
L'interrompt Grace, et sa main tâte son cou en un mouvement confus.
J'ai tout de suite vu qu'ils avaient les mêmes yeux. Les mêmes yeux ?
Oui.
Vous avez eu un enfant,
chuchote Saga. Elle a des frissons dans le dos en comprenant que cet enfant est l'inconnu du terrier de lapin dont avait parlé Jonah.
J'ai eu un enfant,
confirme Grace silencieusement.
Et vous pensez que c'est Rex le père ?
Je sais que Rex est le père, mais je n'ai rien dit à papa et maman. J'ai passé 3 semaines à l'hôpital, j'ai dit que j'avais été renversé par un camion et que tout ce que je voulais c'était rentrer à Chicago.
Elle oscille de nouveau et tient sa main devant la bouche.
Je pense qu'il faut que je me repose,
chuchote-t-elle pour elle-même. Je vais vous aider à vous allonger, dit Saga, et elle la guide doucement jusqu'au lit.
Merci.
Grace se laisse tomber sur le lit, se tourne sur le côté et ferme les yeux.
Vous avez accouché toute seule ?
Je suis allée dans l'étable pour ne pas mettre du sang partout quand j'ai compris que le moment était venu. Il disait que j'étais devenue psychotique, mais c'était ma réalité. Je me suis cachée pour survivre.
Et l'enfant ?
Papa et maman venaient de temps en temps pour le week-end et alors ils devaient se débrouiller seuls. Je le cachais dans un box. Pendant que moi, j'étais obligé de rester dans la maison, de passer à table, de dormir dans mon lit.
Grace se rapproche péniblement du bord du lit et l'oreiller fleuri tombe par terre. Elle se penche mollement sur le côté, ouvre le tiroir de la table de chevet, laisse sa main y reposer un instant, en fermant les yeux, et rassemble ses forces pour sortir une photographie encadrée qu'elle tend à Saga. La photo montre un jeune homme au crâne rasé qui plisse les yeux vers l'objectif. Il porte des habits de camouflage couleur sable et un gilet pare-balles, et il tient un MK12 le long de la cuisse. C'est lui, l'élément inconnu du viol. L'homme sur la photo a pris un coup de soleil sous les yeux et sur le nez. L'épaule de sa veste est garnie d'un écusson ovale en noir et jaune, sur lequel figure un aigle, une ancre, un trident, un fusil d'officier de cavalerie et le texte « SEAL Team 3 ». C'est la principale force spéciale de l'US Navy. Elle forme des soldats qui sont à la fois des nageurs de combat et des parachutistes de haut niveau.
C'est votre fils ?
Jordan,
chuchote-t-elle, les yeux fermés.
Est-ce que Rex connaît son existence ?
Quoi ?
Allait Grace et elle essaie de se redresser.
Est-ce qu'il sait que vous avez mis au monde un enfant dont il est le père ?
Jamais, il faut qu'il ne l'apprenne jamais,
dit-elle, et son menton et sa bouche se mettent à trembler tellement elle a du mal à parler.
Il n'a rien à voir avec Jordan. Il m'a violé, c'est tout. Il ne rencontrera jamais Jordan. Il ne posera jamais les yeux sur lui. Ce serait la pire chose qui puisse arriver, la plus malsaine.
Elle se laisse retomber sur le lit, cache son visage dans ses mains, secoue la tête avant de rester immobile. Et s'il n'avait pas participé au viol, dit Saga, mais elle se tait en voyant que Grace s'est endormie. Ne réussissant pas à la réveiller, elle s'assied sur le bord du lit, prend son pouls et écoute sa respiration régulière.